Et bonjour à tous et bienvenue à l'École normale supérieure. C'est un plaisir de vous accueillir si nombreux à ce colloque qui nous tient beaucoup à cœur à Tiziana et à moi. Et donc dans cette introduction, je vais simplement essayer de vous exposer les motivations derrière ce colloque. Finalement, on pourrait poser le problème comme ça. Vous pouvez vous poser n'importe quelle question en psychologie ou en psychiatrie, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner la dépression? Et vous allez à la bibliothèque ou dans une grande librairie et voilà. Voilà l'abondance d'informations à laquelle vous êtes exposé. On a l'impression que tout le monde a une idée sur le sujet et tout le monde a écrit un livre pour le raconter. Et voilà, ça engendre une abondance d'informations qui peut être un petit peu déconcertante au premier abord. D'ailleurs, j'ai fait un petit test sur le site d'une grande librairie en ligne. J'ai tapé quelques mots-clés. Cancer, 10 000 livres qui sortent quand même. Parmi ces livres, il y en a qui exposent des traitements très, très intéressants pour le cancer. Il y en a aussi qui exposent des traitements totalement inefficaces. Il y en a qui exposent même des traitements qui sont dangereux pour les patients. Si on tape psychothérapie, il y en a un petit peu moins, 2 800 livres quand même. Parmi eux, encore, des livres qui sont très bien, d'autres qui proposent des thérapies totalement sans efficacité, d'autres qui peuvent éventuellement être dangereuses pour les patients, certaines qui frôlent l'ésotérisme, d'autres qui reflètent plutôt des approches sectaires. Bref, il y a de tout. Et donc la question se pose pour la personne qui cherche de l'information, finalement, mais qui a raison? Parce qu'évidemment, dans tous ces livres, il y a plein d'opinions contradictoires les unes avec les autres. Tout le monde ne peut pas avoir raison. Donc qui a raison? Est-ce que c'est celui qui a le plus de diplômes? Est-ce que c'est celui qui a écrit le plus de livres? Est-ce que c'est celui qui se réfère à la tradition la plus ancienne? Est-ce que c'est celui qui crie le plus fort? Bon, vous voyez bien que ces propositions ne sont pas entièrement satisfaisantes. Et donc finalement, la médecine fondée sur les preuves, c'est simplement une approche qui permet de répondre à cette question qui a raison d'une manière un peu rigoureuse et systématique. Et donc c'est ça que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la médecine fondée sur des preuves? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, y compris en psychiatrie et en psychologie? Comment est-ce que c'est possible en psychiatrie et en psychologie? Parce que ce n'est pas évident forcément. Et que se passe-t-il si on ne l'applique pas? Donc je vous rappelle ici la traduction anglaise, enfin la phrase anglaise d'origine de la médecine fondée sur des preuves, Evidence-Based Medicine, pour vous rappeler en fait que la traduction française n'est pas très heureuse, parce que preuve n'est pas une traduction de evidence. Une traduction plus appropriée, ce serait la médecine fondée sur des données, ou la médecine fondée sur des données probantes. C'est à la fois un peu moins prétentieux et c'est plus conforme en fait à l'esprit de l'evidence-based medicine. Mais bon, voilà, maintenant, la médecine fondée sur des preuves, c'est une expression consacrée et donc on va s'y tenir. Donc, quels sont les principes de base de la médecine fondée sur des preuves? C'est vraiment très, très simple. Simplement, ça se fonde sur la démarche scientifique et ça l'utilise pour établir les causes des maladies, pour évaluer et comparer l'efficacité des traitements. Et de fait, depuis une cinquantaine d'années, cette approche est devenue incontournable dans tous les champs de la médecine et dans tous les pays du monde, en tout cas ceux qui ont les moyens d'une médecine moderne. Alors j'ai dit, ça se fonde sur la démarche scientifique, mais qu'est-ce que la démarche scientifique? Alors, ça consiste à formuler des hypothèses, et surtout leurs hypothèses alternatives, parce que c'est pas tout de formuler son hypothèse préférée, mais encore faut-il pouvoir la comparer avec des hypothèses alternatives, c'est crucial, on va y revenir. Formuler des prédictions testables qui découlent de ces hypothèses et qui vont du coup permettre de tester les hypothèses en testant les prédictions, en recueillant des données de l'observation, de l'expérimentation et en testant si ces données sont conformes aux prédictions de l'hypothèse A ou de l'hypothèse B ou C. Évidemment, ensuite, on en tire des conclusions, c'est-à-dire qu'on est amené à accepter ou à rejeter certaines hypothèses en fonction de la conformité des données recueillies aux prédictions engendrées par ces hypothèses. Et à la fin, il faut publier les résultats obtenus dans des revues scientifiques internationales expertisées par les pairs, et je vais y revenir à la fin de l'exposé. Alors, il y a vraiment deux grands champs d'application de la médecine fondée sur des preuves. Le premier, c'est comment déterminer les causes des troubles mentaux, et le deuxième, c'est comment déterminer l'efficacité des traitements. Ici, j'ai écrit « troubles mentaux », c'est le terme que je vais utiliser pendant tout l'exposé. Je précise que je prends cette acception au sens le plus large possible, c'est-à-dire tous les troubles qui peuvent affecter des choses qui se passent dans la tête des gens. Je sais que, par exemple, les personnes qui sont dyslexiques ou qui sont autistes ne se conçoivent pas comme des personnes avec des troubles mentaux parce qu'ils ont une image stéréotypique des troubles mentaux comme étant le fou ou peut-être le schizophrène, etc. Peu importe, la question, c'est pas ça. C'est pas l'image que peuvent avoir les gens des troubles mentaux. C'est juste on essaye d'avoir un terme qui recouvre l'ensemble des troubles ou difficultés qui se passent dans la tête. Évidemment, sans jugement de valeur ni quoi que ce soit. Alors, comment on fait de la recherche sur les troubles mentaux ? Eh bien, l'idée, c'est d'essayer de comprendre ces troubles à tous les niveaux de description possibles et pertinents. Alors, on démarre au niveau du comportement, parce que le comportement, c'est ce qu'on peut observer de la personne. C'est là que se manifestent les difficultés, donc les symptômes en particulier. Donc, ça peut être que la personne a un comportement anormal, ou ça peut être qu'elle ressent des choses qui ne lui conviennent pas et elle va s'en plaindre, elle va formuler par le langage son ressenti qui lui pose difficulté. Et donc ça, c'est l'information qu'on recueille de la personne, ce sont les symptômes, et c'est à partir de là que sont fondés les critères diagnostiques. Donc à partir des symptômes exprimés par la personne dans son comportement, y compris le langage, on peut formuler des diagnostics. Donc ça, c'est ce qu'on peut observer de manière immédiate sur les individus. Évidemment, on ne peut pas en rester à ce niveau d'analyse. On va faire des hypothèses sur des différences entre les personnes qui ont les troubles et les personnes qui ne les ont pas, à différents niveaux de description. Le niveau le plus proche du comportement, c'est la cognition. La cognition, c'est l'ensemble des traitements de l'information qui se passent dans notre tête et qui engendrent le comportement et ce que nous ressentons. Et donc, on va formuler des hypothèses sur des différences cognitives entre les personnes qui ont des troubles et des personnes qui ne les ont pas. Par exemple, on peut faire l'hypothèse que les personnes autistes ont un déficit en théorie de l'esprit. Évidemment, ce ne sont que des hypothèses. Ces hypothèses, elles doivent être testées. Donc, par exemple, la prédiction de ce déficit en théorie de l'esprit, c'est que les personnes autistes vont avoir une moindre performance dans des tâches de fausses croyances. Et donc, on va pouvoir tester au niveau comportemental les prédictions de cette hypothèse formulée au niveau cognitif, et en fonction des données, on va valider ou pas l'hypothèse d'un déficit en théorie de l'esprit, pour donner un exemple. Donc, chaque bulle est en quelque sorte une hypothèse sur une différence, un déficit au niveau cognitif, qu'on doit tester expérimentalement. Les flèches aussi sont des hypothèses sur des liens de causalité entre les déficits aux différents niveaux. Une fois qu'on a identifié des différences au niveau cognitif, évidemment, on se pose la question de savoir d'où elles viennent, ces différences, et on a plusieurs possibilités. Une possibilité immédiate à creuser, c'est des différences au niveau cérébral. Pourquoi ? Eh bien, c'est évident, c'est parce que le cerveau, c'est l'organe de la cognition, et s'il y a des différences au niveau cognitif, il y a inévitablement des différences au niveau cérébral, parce que la cognition, c'est ce que fait le cerveau, et les deux sont les deux faces de la même pièce. Et donc, typiquement, quand on trouve des différences cognitives chez un certain groupe de personnes, on trouve aussi des différences cérébrales qu'on peut mettre en évidence de différentes manières aujourd'hui avec les méthodes d'imagerie cérébrale, de même qu'avec des méthodes plus invasives lorsque c'est nécessaire. Lorsqu'on met en évidence des différences cérébrales chez un groupe de patients, on se pose à nouveau la question, mais d'où viennent-elles ? Et là encore, il y a deux grandes classes d'hypothèses. On peut aller regarder dans le génome de la personne, parce qu'après tout, c'est quand même le génome qui contient le code qui permet de construire le cerveau et de le faire fonctionner au jour le jour. Et donc, on sait très bien qu'il y a des variations génétiques qui peuvent engendrer des différences au niveau du développement du cerveau et au niveau de son fonctionnement. Et on va aussi regarder dans l'environnement de la personne, parce qu'on sait aussi très bien qu'il y a des facteurs environnementaux qui, en l'occurrence, peuvent interagir avec tous les niveaux de description. Des facteurs environnementaux peuvent modifier l'expression de certains gènes, peuvent faire changer de trajectoire le développement du cerveau, par exemple, peuvent modifier certaines fonctions cognitives et, évidemment, vont affecter le comportement. Donc, in fine, l'objectif, finalement, de la recherche scientifique sur les troubles mentaux, eh bien, c'est de mettre du contenu dans toutes ces bulles et dans toutes ces flèches à tous les niveaux de description. Et là, l'idée, c'est vraiment essentiel, c'est qu'on n'est pas en train de faire du réductionnisme. Si quelqu'un croit qu'on va pouvoir comprendre les troubles mentaux en ne regardant les choses qu'au niveau du neurone, on voit bien que cette personne rate une bonne partie de l'information pertinente sur le trouble. De la même manière que si d'autres personnes croient qu'on va comprendre les troubles mentaux uniquement en se focalisant sur le niveau du ressenti subjectif, eh bien là aussi, on occulte toute une partie de la réalité importante sur les troubles mentaux, et donc on ne va pouvoir avoir une vision intégrale des troubles mentaux quand vraiment les étudiants, dans leur globalité, à tous les niveaux de description pertinents, du gène jusqu'au comportement, en prenant en compte, bien sûr, les facteurs environnementaux. Alors, ici, je ne vais pas vous faire un exposé sur les causes des troubles mentaux. À proprement parler, je vous montre juste une diapo d'illustration, qui est la diapo avec du contenu pour l'autisme. Bon, j'ai choisi l'autisme parce que c'est un trouble que je connais un petit peu mieux que les autres. Je ne vais pas vous expliquer toutes les bulles et toutes les flèches, ça paraît atrocement compliqué, et pourtant, ça n'est encore qu'une partie de la réalité. Toutes les bulles et toutes les flèches que j'ai mises là sur ce graphique sont appuyées par des données qui existent, mais évidemment, c'est un état des connaissances temporaires. C'est un état des connaissances incomplet, parce qu'il y a encore d'autres résultats que je n'avais pas la place de mettre dans la diapo. Et puis parce qu'évidemment, on ne sait pas tout sur les causes de l'autisme, et donc il y a encore bien d'autres choses qu'on va découvrir qui vont venir encore complexifier ce graphique. Mais ça montre qu'effectivement, pour un trouble complexe comme l'autisme, qui a de multiples symptômes au niveau comportemental, eh bien, on est amené à identifier de multiples dysfonctionnements au niveau cognitif, au niveau cérébral, on trouve aussi des différences au niveau génétique, on trouve un certain nombre de facteurs environnementaux qui agissent comme des facteurs de risque également, et tout ceci forme une combinaison extrêmement complexe. Mais malgré tout, on peut comprendre ces choses-là, au moins partiellement, grâce à la recherche scientifique. Alors voilà pour la première partie sur déterminer les causes des troubles mentaux. Maintenant, on va attaquer la partie qui nous intéresse le plus ici, qui est comment savoir quels sont les traitements qui marchent. On va commencer par une petite histoire d'un traitement qui ne marche pas, c'est la saignée. Donc vous savez, c'est cette pratique qui consiste à vider le patient d'une partie de son sang dans l'espoir que ça va le soigner. C'est une pratique qui, curieusement, a été inventée de multiples fois dans l'histoire de l'humanité et a été utilisée dans de nombreuses cultures. Pour ce qui est de l'Occident, en fait, c'est une pratique qui nous est venue de la médecine grecque. Objectivement, l'efficacité de cette pratique est négative. C'est-à-dire, à part dans certaines indications médicales très particulières, cette pratique nuit à l'état de santé du patient, et parfois jusqu'à la mort. C'est d'ailleurs de ça que George Washington est mort. Il a été saigné à mort par ses médecins, alors qu'au départ, il avait un simple rhume. D'accord ? Et il y en a beaucoup d'autres qui sont morts de la saignée. Et pourtant, cette pratique a perduré jusqu'au XIXe siècle. Okay, et donc là, on arrive à quand même un grand mystère, c'est finalement comment est-ce qu'une pratique dont l'efficacité objective est de nuire à la santé des patients, sous les yeux des médecins, peut avoir perduré comme ça pendant 2500 ans. Est-ce que les médecins de l'époque qui la pratiquaient étaient tous ignorants, idiots, aveugles ou malhonnêtes? Alors bien sûr, leur formation n'était pas la formation du XXIe siècle en médecine, mais malgré tout, ils avaient des yeux pour voir, ils voyaient bien l'état de leurs patients avant la saignée, après la saignée. Objectivement, ils se dégradaient en moyenne, et malgré tout, ils ont gardé la conviction que la saignée avait un effet bénéfique sur les patients pendant tout ce temps-là. C'est assez incroyable quand on y pense. Alors, quels enseignements on peut tirer de la saignée ? Bien, un clinicien qui simplement observe l'effet de ses pratiques sur ses propres patients court un grand risque de se leurrer. Alors pourquoi ? Évidemment, je ne suis pas là en train d'essayer de dénigrer les cliniciens. Si les cliniciens courent un grand risque de se leurrer, c'est pour des raisons qui sont communes à tous les êtres humains. Et en l'occurrence, ce sont des facteurs psychologiques dont nous souffrons tous et qui affectent nos capacités de raisonnement, qui sont bien connues, qui ont été découvertes par la psychologie cognitive dans les 50 dernières années. Donc premièrement, les croyances et les attentes du clinicien influencent sa perception, et en particulier sa perception de l'état du patient. Donc l'état du patient peut se dégrader, et dans certains cas, le clinicien ne va pas le voir ou va croire que l'état s'améliore. Le biais de confirmation, c'est la tendance à partir d'une hypothèse qui est la sienne, de rechercher toujours les informations qui vont confirmer l'hypothèse et de négliger lorsque les données ne confirment pas l'hypothèse et lorsque les données vont carrément à l'encontre de l'hypothèse, ben, disons de les mettre sur le côté en disant « Ah oui, mais c'était parce que... » La mémoire sélective, évidemment, qui est le pendant du biais de confirmation, qui fait qu'on se souvient des données qui sont conformes à nos croyances a priori et qu'on oublie celles qui ne sont pas conformes. L'incapacité du clinicien de déterminer la cause de l'évolution du patient. Le clinicien intervient, l'évolution, le patient a son état qui évolue, mais pourquoi est-ce que son état évolue? Est-ce que c'est dû à l'action du clinicien? Est-ce que c'est dû au temps qui passe et à la maladie qui guérit spontanément? Ou à l'enfant qui se développe? Est-ce que c'est dû à un autre facteur qui est intervenu et que personne n'a remarqué? Qui peut le savoir? Certainement pas le clinicien qui vient d'intervenir. Et donc ces facteurs psychologiques qui altèrent la capacité du clinicien à estimer l'effet de son intervention sur le patient, ben, ces facteurs, ils existent toujours chez tout le monde, chez tous les gens dans cette salle, et y compris chez les médecins les mieux formés au XXIe siècle. Et donc, ces facteurs, il faut absolument les prendre en compte si on veut apprendre quelque chose, effectivement, sur l'efficacité des traitements. Donc, comment utiliser la démarche scientifique pour évaluer les traitements? Eh bien, comme utiliser tous les ingrédients de la démarche scientifique, donc comme je les ai listés tout à l'heure, formuler des hypothèses et leurs alternatives, des prédictions testables, tester ces prédictions en recueillant des données, en tirer les conclusions, publier les résultats. Dans cette démarche, l'hypothèse du clinicien, c'est toujours la même. L'état du patient va s'améliorer grâce à mon intervention. Okay, ça, c'est l'hypothèse par défaut. Maintenant, évidemment, tout le truc, c'est de prendre en considération les hypothèses alternatives qui pourraient expliquer les mêmes observations. Et c'est là que ça se complique. Donc les hypothèses alternatives, ça pourrait être que, ben, déjà, il se pourrait que les observations du clinicien ne correspondent pas à l'état réel du patient, parce que, justement, ses croyances, ses attentes modifient la perception du clinicien. Il se pourrait que le patient qu'on regarde ne soit pas représentatif de son trouble et que son évolution ne soit pas généralisable à d'autres patients. Il se pourrait que l'évolution du patient soit sans lien causal avec l'intervention du clinicien, justement pour ce que j'expliquais tout à l'heure, la rémission spontanée, le développement de l'enfant qui fait que même un enfant avec un handicap sévère, ben, en grandissant, ben, il se développe, ses fonctions cognitives s'améliorent et tout a tendance à s'améliorer avec le temps. L'effet placebo, bien sûr, qui est dû à la croyance du patient en l'efficacité du traitement et qui est donc un effet réel, mais non spécifique à l'intervention du clinicien. Et puis, il se pourrait aussi que l'évolution du patient soit positive, mais malgré tout moins bonne que celle d'un autre, celle qui pourrait être obtenue avec un autre traitement. Et si c'est le cas, on aimerait aussi le savoir. Et donc, vous voyez que toutes ces hypothèses alternatives, eh bien, si on veut les tester correctement, eh bien, on va être amené à ajouter petit à petit dans notre expérimentation tous les ingrédients de la médecine fondée sur l'épreuve, tous les ingrédients méthodologiques de l'essai clinique, randomisé, contrôlé, etc. Donc, par exemple, on va devoir faire des mesures objectives de l'état du patient qui soient le plus indépendantes possible du clinicien. Si elles peuvent être effectuées par des personnes autres que le clinicien lui-même qui effectue l'intervention et qui ne partagent pas nécessairement les croyances et les attentes du clinicien, c'est évidemment encore mieux. La nécessité de tester plusieurs patients, évidemment, de ne pas se baser que sur des analyses de cas, mais de tester des groupes de patients ayant un certain trouble, de manière à voir ce qui est général à ces patients et ce qui va être généralisable à d'autres patients. Parce que le but de la médecine, ce n'est pas juste de traiter le patient aujourd'hui, enfin en tout cas de la recherche médicale, c'est surtout d'extraire des généralités qui puissent servir à traiter les patients futurs. La nécessité de groupe contrôle, hein, pour savoir si le patient s'est amélioré grâce à l'intervention du clinicien ou simplement parce que ses symptômes ont diminué juste grâce au temps, eh bien, il faut avoir un groupe contrôle de patients qui voient le temps passer sans l'intervention du clinicien. Et dans ce cas, on va pouvoir comparer leur évolution, on va pouvoir comparer l'évolution du groupe de patients qui a le traitement avec l'évolution du groupe de patients qui voit juste le temps passer ou qui reçoit le traitement placebo. Donc, la nécessité de la comparaison. Les patients s'améliorent, oui, mais par rapport à quoi? C'est absolument crucial. Si on n'a pas cette comparaison, on ne peut pas commencer à répondre à la question de quel est le facteur qui engendre l'évolution des patients. Évidemment, si en plus on a déjà des traitements qui ont une certaine efficacité démontrée, c'est encore mieux de comparer l'efficacité du nouveau traitement à celui d'un traitement déjà connu. Et donc, vous voyez arriver en filigrane, ben, finalement, tous les ingrédients méthodologiques de l'essai randomisé contrôlé. Je vous fais ça comme ça pour vous montrer que finalement, ces critères méthodologiques n'ont rien d'arbitraire. Ce n'est pas une espèce de dogme qu'on impose comme ça à tous les chercheurs cliniciens. Chaque critère méthodologique est motivé par l'absolue nécessité de contrôler des hypothèses alternatives que si on ne les contrôle pas, eh bien, on risque fort de se fourvoyer. Alors, que mesurer chez les patients? Eh bien, leur état, d'une manière qui soit pertinente par rapport à la plainte ou à la pathologie. Et il faut mesurer avant traitement et après traitement de manière à pouvoir estimer l'évolution de l'état du patient au cours du traitement. Évidemment, il faut essayer de le faire de la manière la plus objective possible, ce qui est possible même si la mesure qui nous intéresse, c'est le ressenti subjectif du patient. Il est possible d'objectiver la subjectivité des patients, au moins dans une certaine mesure, et certains de mes collègues vont y revenir ce matin. Ce qui est très important à remarquer, c'est que les mesures de l'état des patients avant et après traitement, sont totalement indépendantes de la nature même du traitement. Entre la mesure avant et la mesure après, on peut faire ce qu'on veut. Ça peut être un traitement médicamenteux, ça peut être une psychothérapie, ça peut être de l'orthophonie, de la psychomotricité, de la méditation. Ça peut être un traitement totalement standardisé pour tout le monde, ça peut être un traitement totalement individualisé. Ça n'a strictement aucune importance. Dans tous les cas, on peut mesurer l'état des patients avant et après. Donc aucune forme de thérapeutique n'échappe à cette possibilité d'évaluation de l'état des patients avant et après, et donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas le faire. Alors du coup, est-ce qu'on peut encore accepter cette affirmation qu'on entend souvent, qu'il est vraiment impossible de mener des essais cliniques en psychologie, en psychiatrie, c'est des méthodes qui sont adaptées aux médicaments, mais qui sont totalement inappropriées pour la psychothérapie, ça devient de plus en plus difficile à tenir, puisque finalement on se pose exactement les mêmes questions que dans le reste de la médecine, et on peut appliquer les mêmes principes et la même méthodologie. À la seule exception du double aveugle, dont je n'ai pas parlé, mais qui est effectivement beaucoup plus difficile à mettre en pratique en psychothérapie, c'est dommage, c'est une limite méthodologique, ce n'est pas non plus rédhibitoire, on peut faire sans. Et de fait, de la recherche clinique, selon les principes de la méthode fondée sur des preuves, en psychiatrie et en psychologie, ça se fait partout dans le monde, et ça se fait massivement. Donc par exemple, j'ai été voir sur une base de données internationale qui est un registre de tous les essais cliniques en cours dans le monde, et j'ai tapé le mot-clé psychothérapie pour savoir quels étaient tous les essais cliniques en psychothérapie qui sont actuellement en cours dans le monde. J'en ai trouvé 481. Donc c'est pas mal, vous voyez, c'est un secteur de recherche qui est actif, il y a des choses qui se font. Sur la seule période 2012 et le début de l'année 2013, il y a 103 nouveaux essais cliniques en psychothérapie qui ont été enregistrés dans cette base de données. Donc vous voyez que chaque année, eh bien, on recueille un grand nombre de résultats nouveaux sur l'efficacité des psychothérapies dans le monde entier. Après, j'ai tapé le mot-clé France pour savoir quelle proportion de ces essais cliniques se déroulaient en France. Voici les chiffres. 5 essais cliniques sur les psychothérapies en cours actuellement en France, dont un enregistré depuis 2012-2013. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'il n'y a pas de quoi pavoiser. Alors, il n'y a pas de quoi pavoiser, et évidemment, ça a aussi des conséquences sur la prise en charge des patients en France. Donc, je vais vous donner 2 illustrations rapides sur la prise en charge de l'autisme et sur la question des psychothérapies et de la consommation de psychotropes. Donc, sur la prise en charge de l'autisme, bon, vous savez, on en a beaucoup débattu dans l'année qui a précédé. C'est un domaine sur lequel on a très très peu de données sur ce qui se passe en France. Quasiment aucune étude publiée qui montre un petit peu quelle est l'efficacité des pratiques en vigueur actuellement en France. J'ai quand même trouvé un article intéressant, publié par l'équipe d'Amaria Baghdadli à Montpellier, qui a suivi un certain nombre d'enfants autistes pendant 3 ans et demi en moyenne. Des enfants autistes qui ont été recrutés dans un certain nombre de centres cliniques, des hôpitaux de jour, des instituts médico-éducatifs, etc. Une 50aine d'institutions en tout, et ils ont suivi un peu plus de 200 enfants. Ils n'ont recueilli aucune information vraiment sur la nature des interventions qui étaient effectuées sur ces enfants, donc on ne sait pas. Mais bon, à travers 50 institutions, on peut se dire qu'ils ont recueilli une espèce d'échantillon plus ou moins représentatif de ce qui se fait dans la prise en charge de l'autisme en France, actuellement, d'accord. Et puis, ils ont suivi, donc ils ont fait des mesures, ils ont évalué le développement cognitif de ces enfants avant, au début de la période, et puis à la fin de la période, 3 ans et demi plus tard, pour voir un petit peu quelle était leur évolution. Et puis voilà, il y a des chiffres, des tableaux, on peut extraire les chiffres et essayer d'en faire quelque chose. Donc, c'est très intéressant. Et je vous l'ai mis ici sous une forme standardisée. Donc, T1 au début de l'étude, T2 12 mois plus tard. Et là, la mesure que j'ai extraite de leur tableau, c'est l'échelle de communication de Vineland, okay, qui est un truc très standard, qui est utilisé dans toutes les études sur l'autisme, qui permet de mesurer un petit peu quelles sont les capacités de communication des enfants autistes. Donc, AT1 égale 0, bon, il démarre à 0, c'est le nombre de... Donc là, ce qui est indiqué sur l'axe des Y, c'est les progrès des enfants entre T1 et T2 en mois d'âge de développement. Et donc, cette ligne bleue, c'est... le développement des enfants normaux. Donc, par définition, les enfants normaux, entre 0 et 12 mois, enfin, entre deux temps espacés de 12 mois, ils se développent de 12 mois, par définition, puisque c'est eux qui font la norme. D'accord ? Et donc, dans l'étude de Darou et al., les enfants autistes qui étaient suivis se développaient d'environ, en moyenne, 4 mois sur la période de 12 mois. Autrement dit, ils se développent à un rythme très lent, plus lent que ceux des enfants normaux. Donc déjà, ils démarrent l'étude, ils sont très en retard, puisqu'ils ont eu un diagnostic d'autisme, et on voit que leur écart s'accroît avec le temps, ce qui est dramatique. Alors après, évidemment, ce sont des enfants autistes, et donc par définition, ce sont des enfants qui ont un trouble du développement, et donc peut-être que, bah, peut-être que c'est comme ça. Donc là, c'est important de prendre une perspective un peu internationale et de se dire, bon, ben voilà un petit peu les résultats qu'on a en France. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Est-ce qu'il y a des gens qui ont récolté des données similaires? Alors oui, il y a des gens qui ont récolté des données similaires et qui utilisent les mêmes outils d'évaluation comme l'échelle de Vineland. Donc par exemple, j'ai pris un exemple, un essai clinique qui avait des données comparables de Howard et al., dont la référence est donnée ici. Et donc, il lui a appliqué une intervention sur trois groupes d'enfants. Donc, un premier groupe d'enfants qui suivait un traitement ABA intensif. Et donc, vous voyez que ces enfants, sur une période de 12 mois, ils se développent de 17 mois. Donc, c'est non seulement ils se développent au moins autant que les enfants normaux, mais en fait, ils rattrapent une partie de leur retard, d'accord, suite à cette intervention, qui est une intervention très intensive. Évidemment, l'intérêt de Howard et al., c'était de faire un vrai essai clinique contrôlé, et donc ils ont des groupes de comparaison. Et les groupes de comparaison, donc il y a une intervention en éducation, enfin qui n'est pas une vraie intervention, qui est juste une prise en charge en éducation spécialisée autisme, et une autre prise en charge en éducation spécialisée qui est plus généraliste, pas spécifique à l'autisme. Et là, vous voyez que les enfants se développent entre 6 et 8 mois sur une période de 12 mois. Donc c'est moins bien que l'ABA intensif, et c'était le point que voulait faire Howard. Mais moi, ce que je trouve le plus remarquable, c'est la comparaison des groupes contrôle de cette étude américaine avec le développement des enfants français. Et vous voyez qu'en fait, les enfants français, sur la même période, progressent moins que les enfants des groupes contrôle de l'étude américaine. Et pourquoi ? Parce que les enfants des groupes contrôle de l'étude américaine, ils sont à l'école, parce que oui, aux États-Unis, on scolarise des enfants autistes, ils sont à l'école et ils sont pris en charge d'une manière extrêmement compétente par des éducateurs spécialisés qui ont été formés spécifiquement à ça. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, aux États-Unis, leur loi sur le handicap, ça date de 1975, 30 ans avant la nôtre. Donc ils ont eu le temps de former les gens et que les gens deviennent compétents pour la prise en charge de l'autisme. Mais donc vous voyez qu'une prise en charge, même une prise en charge d'éducation spécialisée généraliste bien faite dans une école publique américaine, ça permet aux enfants de progresser mieux que dans la psychothérapie institutionnelle façon cocorico. Donc, ça laisse un petit peu songeur. Alors, quand on entend Bernard Goltz qui dit « Dans l'autisme, rien n'est validé, tout marche si on met le paquet, c'est l'intensité de la prise en charge qui compte », eh bien, en fait, l'étude de Daru et al. Visait précisément à répondre à cette question, à tester cette hypothèse « C'est l'intensité de la prise en charge qui compte ». Vous voyez, c'est le sous-titre de leur article. Et la réponse se trouve dans l'abstract, et ils disent « De manière surprenante, l'intensité de l'intervention, en termes de nombre d'heures par semaine, n'avait aucun lien avec les progrès des enfants. » Et donc, quand on voit les résultats, finalement, et la comparaison avec ce qui se fait aux États-Unis, on comprend un petit peu, vous voyez, les auteurs, eux, ils étaient surpris, mais finalement, quand on compare avec d'autres pays, on comprend un petit peu pourquoi l'intensité de l'intervention n'a aucun effet. C'est que quand les pratiques thérapeutiques sont inefficaces, on peut mettre tout le paquet qu'on veut, mais ça ne marche pas. Je passe à une autre illustration, une histoire qu'on entend souvent. La médecine fondée sur des preuves serait une espèce de cheval de Troie de l'impérialisme américain au service de ses compagnies pharmaceutiques. Quand c'est dit comme ça, ça fait peur, hein. Et la suite, les psychothérapeutes français seraient les derniers remparts des patients français contre l'avidité des firmes pharmaceutiques anglo-saxonnes. Vous avez remarqué, les anglo-saxons, c'est toujours les méchants. Alors, pour moi, c'est une hypothèse, comme les autres, et on peut la tester. Cette hypothèse fait une prédiction, c'est que les patients français devraient se porter mieux que les autres et devraient consommer moins de psychotropes que les autres. Or, la vérité, vous la connaissez. Hein, je vous ai sorti les chiffres. Donc c'est que les Français sont des champions de la consommation de psychotropes. Donc là, vous voyez une étude sur 30 pays européens, et les Français sont ici, ils arrivent troisième après la Belgique et le Portugal. Et surtout, ils arrivent très très loin devant la Grande-Bretagne, les méchants anglo-saxons, avec leur médecine fondée sur les preuves. Les Français consomment 5 fois plus de psychotropes qu'eux. Ça fait réfléchir aussi. Donc, ces données ne sont pas tout à fait compatibles avec les prédictions de la fable. Hypothèse alternative, qui n'est pas prouvée, mais que je vous soumets, Peut-être que les Français surconsomment des psychotropes précisément parce que l'offre de soins de psychothérapie efficace est très limitée en France. Et corollaire de cette hypothèse, peut-être que le meilleur rempart contre la surmédication en psychotropes, ce sont justement les psychothérapies efficaces. Et que, à contrario, les meilleurs alliés des compagnies pharmaceutiques, ce sont les psychothérapeutes inefficaces. Alors nous en venons un peu aux conclusions. Du coup, ayant fait cet état des lieux qui est somme toute pas très brillant, que peut-on exiger de la recherche clinique ? Donc, travailler de manière scientifique, formuler des hypothèses, les tester de manière systématique, adopter une méthodologie rigoureuse permettant de contrôler les biais et les hypothèses alternatives, c'est essentiel, publier les résultats dans les revues internationales scientifiques. Je fais une digression là-dessus parce que c'est assez important, je trouve. Donc, premièrement, la différence entre un livre qu'on trouve à la bibliothèque ou dans les rayonnages d'une librairie et un article dans une revue scientifique, c'est essentiel. Le seul critère de publication d'un livre, c'est l'éditeur qui choisit, c'est est-ce que ça va vendre du papier ? D'accord ? Et comme vous le savez, si vous avez consulté les librairies en ligne ou les rayonnages d'une librairie ou d'une bibliothèque, il se publie tout et n'importe quoi avec des avis contradictoires et complètement fantaisistes. On peut tout publier. D'accord ? La validité du contenu n'est absolument pas un critère de la publication d'un livre. En revanche, la publication scientifique, ça marche selon des règles différentes. Ça se fait dans des revues spécialisées. Chaque article est soumis à une revue. Il doit être expertisé par des pairs, c'est-à-dire des chercheurs qui sont experts du domaine, qui se posent la question. La méthodologie permet-elle de répondre à la question ? Les conclusions sont-elles soutenues par les résultats ? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on rejette l'article, on lui demande de réviser, etc. Donc, ça ne veut pas dire que tout ce qui est publié dans les revues scientifiques est irréprochable, mais si vous voulez, ça filtre quand même un petit peu le niveau de qualité. Très important, la publication en anglais. 2% des chercheurs du monde comprennent le français. Autrement dit, si vous faites une recherche formidable et que vous en publiez les résultats uniquement en français, eh bien, c'est comme si vous enterriez vos résultats dans un trou pour être sûr que personne n'y aura jamais accès. D'accord ? Et du coup, tous les chercheurs du monde de ce domaine-là n'en auront jamais connaissance, ça n'influencera jamais leur recherche. Et ça ne sera jamais incorporé, si vous voulez, dans ce corpus de connaissances internationales qu'est la science. Donc, il est essentiel de publier tous ces résultats en anglais. On peut évidemment se lamenter de la perte d'influence du français dans la communication scientifique, etc. Mais voilà, dans l'état actuel du monde, en tout cas, si on ne publie pas en anglais, eh bien, on est sûr que ça ne contribue pas à la science. Alors, j'ai dit ce qu'on peut exiger de la recherche clinique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut exiger des cliniciens ? Parce qu'évidemment, la plupart des cliniciens ne sont pas chercheurs, ils n'ont pas les mêmes objectifs, eux, ils ont pour but de soigner, et on ne peut pas non plus avoir les mêmes exigences de tous les cliniciens qu'on a de ceux qui font la recherche clinique. Ce n'est pas du tout le même métier. Donc, premièrement, on devrait pouvoir leur demander de tenir à jour leurs connaissances, d'une part sur les causes des troubles mentaux, et d'autre part sur l'efficacité des différentes approches thérapeutiques. Et puis de se former aux approches thérapeutiques qui ont fait la preuve de leur efficacité. Et puis, après, sur le terrain, on fait de son mieux pour chaque patient. Hein, parce qu'évidemment, on sait bien que chaque patient est unique et qu'ils ne correspondent pas tous au profil idéal qui est décrit dans les études de recherche, etc., dans les manuels diagnostiques, qu'il y a beaucoup de patients qui ne rentrent pas dans les cases, qui représentent des situations extrêmement complexes, des situations atypiques, etc. Donc ça, c'est vrai. Et donc, face à des cas qui ne rentrent pas bien dans les cases qui ont été fournis par sa formation, le clinicien doit faire de son mieux, doit utiliser son jugement clinique, même son intuition clinique. Il y a pas, on peut accepter ça, c'est normal, il faut le faire. Simplement, il faut quand même réaliser que le jugement clinique d'un clinicien qui a bien tenu à jour ses connaissances et qui s'est bien formé aux thérapies qui ont une efficacité, ce n'est pas du tout la même chose que le jugement clinique d'un clinicien qui s'est formé la dernière fois il y a 30 ans. Et donc le jugement clinique, oui, mais un jugement clinique valable doit se fonder sur des connaissances solides. C'est absolument essentiel. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les codes de déontologie à la fois des médecins et des psychologues. Je ne vais pas vous les lire, mais vous pourrez consulter les sources. Elles sont en libre accès sur Internet. Pour conclure, la médecine fondée sur des preuves est-elle une forme de scientisme ? Une autre accusation qu'on entend souvent. En fait, la médecine fondée sur des preuves, son seul principe, c'est juste la démarche scientifique. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Je ne vais même pas discuter la question du scientisme et du positivisme, qui sont vraiment des vieilles idéologies poussiéreuses à laquelle plus personne n'adhère aujourd'hui. Ce n'est même pas pertinent pour la discussion. Mais souvent, ce qui est évoqué, c'est qu'on aurait comme une croyance dans la toute-puissance de la science, qu'on va pouvoir tout comprendre grâce à l'approche scientifique. En fait, pas du tout. La démarche scientifique n'implique aucune croyance de ce type. En fait, on est parfaitement conscient que nos connaissances sont limitées, que nos moyens d'investigation sont limités, que nos capacités de compréhension sont limitées aussi. Et évidemment, on espère bien que les connaissances vont continuer à progresser, mais il n'y a aucune raison qu'on arrive à tout comprendre. On va devoir faire au mieux avec les connaissances limitées qu'on aura. Mais simplement, on doit exiger que les affirmations, qu'elles soient de nature scientifique ou thérapeutique, soient justifiées par des données qui puissent être expertisées et discutées de manière contradictoire. Et évidemment, comme je l'ai illustré, les exigences méthodologiques des essais cliniques ne sont pas du tout arbitraires. Elles découlent directement de la nécessité de contrôler des biais qui sont bien connus et de tester des hypothèses alternatives qui sont également bien connues et qui, en l'occurrence, sont justes dans de nombreuses situations. Et donc, évidemment, on peut dire « Ah, mais ce n'est pas une approche qui est possible dans notre domaine parce que ceci, cela ». Et donc il y a des gens qui sont tentés de proposer en quelque sorte des épistémologies alternatives, des manières différentes d'acquérir la connaissance de cette démarche scientifique qui semble vraiment excessivement rigide. Et donc pourquoi pas? Finalement, on n'a pas forcément encore les meilleures méthodes pour faire la science. Mais dans ce cas, toute personne qui propose une épistémologie alternative devrait avoir l'obligation de justifier comment elle procède pour se prémunir contre les biais qui sont connus et comment elle procède pour éliminer les hypothèses alternatives. Sans quoi, pourquoi est-ce qu'on croirait que son hypothèse est correcte plutôt que les hypothèses alternatives? C'est juste ça qu'on demande aux gens, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi ils ont raison et de nous en convaincre. Voilà, et bien j'ai terminé pour cette partie et je vous invite à poser des questions. Merci.
Un certain nombre de situations... On n'a pas de données fiables. Je prends un exemple. Par exemple, TADA et troubles bipolaires chez l'enfant. On a des données, mais qui sont pour la plupart contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cliniciens qui vont voir un trouble bipolaire là où d'autres vont voir un TADA. Au niveau des traitements, bon, on a des certitudes sur le traitement du TADA, sur le trouble bipolaire, on en a beaucoup moins. Donc il y a un certain nombre de situations où le clinicien se trouve face à une grande incertitude face aux données. Donc comment est-ce que dans ces situations-là, on peut... prendre parti.
Bien sûr, ben ça, j'ai jamais dit que c'était un métier facile d'être clinicien. Donc c'est vrai qu'il y a des tas de situations où finalement ben, l'état actuel de la connaissance scientifique ne décrit pas bien la situation et ne dit pas ce qu'il faut faire. Et là, je ne sais pas, ce n'est pas mon métier, à vrai dire. Je pense que chacun, il faut agir, il faut faire quelque chose. On fait au mieux en fonction de, ben, voilà, de similarités qu'on repère avec des cas qui sont plus connus. Mais il n'y a pas de solution miracle. Hein. Alors attendez, il faut poser les questions dans les micros, et de préférence, voilà, il y a déjà des gens qui ont des micros.
Merci pour votre présentation, je rejoins et je partage tout ce que vous avez présenté, si ce n'est l'écriture jaune avec un fond bleu. On parlait de mettre à jour, c'est juste parce que, comme je vous fais un grand compliment, j'ajoute un petit bémol. Très sérieusement, la question, évidemment, on ne peut que partager vos propos et les conclusions. Qu'est-ce qui explique que justement on n'ait pas basculé vers ce système de evidence-based médecine ou en psychologie? Et surtout, j'ai un petit peu la réponse à ça, mais surtout la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous conseilleriez de faire pour changer, j'allais dire changer les mentalités, changer les comportements pour améliorer la situation?
Donc, bon, premièrement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas basculé dans la médecine fondée sur les preuves en psychiatrie, en psychologie? En psychologie, en fait, on a basculé dedans. C'est en France qu'on n'a pas basculé. On est d'accord. Donc après, pourquoi est-ce que la France a plus résisté à ça qu'à d'autres? Là, c'est une question sociologique à laquelle je n'ai pas tellement envie de répondre. Je ne suis pas tellement expert de ça. Il y a peut-être des confrères ici qui auront envie de s'étendre un petit peu plus là-dessus. Bon, moi, je n'ai pas vraiment d'explication à donner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que finalement ça se diffuse un petit peu plus? Eh bien, je pense que voilà, il faut faire de l'information et de la formation. Ce colloque en est un élément. Je pense qu'on peut améliorer pas mal de choses dans les formations initiales, à la fois des médecins et des psychologues. Et on peut renforcer un petit peu aussi l'obligation de formation continue et peut-être avoir un contrôle un petit peu plus rigoureux du contenu de ces formations. Parce qu'actuellement, n'importe quel organisme de formation peut former à n'importe quoi. Tout ce qu'il faut pour être organisme de formation, c'est être enregistré à la préfecture. Mais il n'y a jamais aucun contrôle des contenus. Je pense qu'il y aurait des progrès à faire là-dessus.
Avec, juste parce que le problème, c'est que ces formations-là, sont, ce que vous proposez, c'est proposé par une minorité pour l'instant, et que ceux qui peuvent décider sont ceux qui sont contre ces formations. Donc c'est comment pouvoir changer un petit peu ce rapport de force ?
Mais bon, le temps va aider. Il y a des gens qui vont partir à la retraite, il y a des gens qui vont mourir. Oui, mais ils se reproduisent moins. Monsieur.
Oui, je voulais vous poser une question relativement à l'évidence based medicine. La conception que j'en ai reçue, c'est celle que les pathologies à l'échelle mondiale sont souvent prennent des reliefs différents selon les lieux, les sociétés, la géographie, etc. De telle sorte qu'il y a donc des pôles de maladies qui induisent donc positivement l'émergence de cliniciens qui atteignent un niveau d'expertise qui fait que le traitement rentre, disons, la pathologie rentre dans une espèce de d'expérience par lequel le traitement surgit effectivement spontanément. Mais dans le cadre... Donc ça, c'est le sens de l'évidence. C'est-à-dire que certaines pathologies deviennent évidentes pour certaines praticiens, cliniciens, experts qui ont un certain niveau d'expertise, et c'est cette médiation immédiate entre la maladie et son traitement perçu par le clinicien qui charge le mot d'évidence. Mais cependant, pour les problèmes de psychologiques, psychiatriques, là vous avez effectivement signalé le niveau à la fois cognitif mais surtout le niveau biologique. Nous avons effectivement la même biologie, nous sommes êtres humains, donc structurés par nous le savons. Et donc, ces pathologies peuvent être universellement partagées, au point de vue génétique. Bien que, d'un point de vue sociétal, environnemental, il y a une différenciation. Alors, la question que je pose, c'est comment se fait-il que les grands résultats des sociétés anglo-saxonnes qui ont réussi, de par la mise en œuvre de nouvelles praxis qui effectivement, génèrent des cas de figure objectivés, et donc soumis à un examen scientifique, à des conclusions donc démontrables, ne puissent pas être aussi diffusées, par exemple en France, qui sont là en retard. Donc les deux moments, c'est que pensez-vous de ce que je disais sur l'évidence basée de médecine en tant que relation à l'expertise localisée par rapport à des pathologies qui sont géographiquement et socialement déterminées, et ce que je viens de dire sur la diffusion des savoirs. Et pourquoi est-ce que la France est allée en retard par rapport à la propagation de ces savoirs constitués ? Merci.
Bon, la deuxième question, c'est un petit peu la première question qu'on a eue tout à l'heure. Hein. Bon, je pense y avoir répondu du mieux que je pouvais, c'est-à-dire pas beaucoup. Sur la question de l'expertise locale des cliniciens, effectivement, donc on l'a bien vu dans le domaine de l'autisme. Effectivement, l'expertise sur l'autisme s'est diffusée très progressivement dans le domaine de la pédopsychiatrie. Et effectivement, ça a provoqué une espèce d'inflation de diagnostics de l'autisme qui font penser à certains à une épidémie d'autisme, alors que, bon, on ne sait pas s'il y a une vraie épidémie d'autisme ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de diagnostics parce qu'il y a de plus en plus de cliniciens qui ont été sensibilisés à l'autisme et qui sont capables de le diagnostiquer, alors que antérieurement, les mêmes enfants pouvaient être vus par les mêmes cliniciens et recevoir un autre diagnostic, par exemple un diagnostic de simple retard mental ou un diagnostic de trouble du langage, par exemple, ou de mutisme. Donc effectivement, la formation progressive des cliniciens à différents diagnostics, à différentes méthodes, fait que, du coup, l'épidémiologie change, au moins dans les chiffres qu'on recueille, si ce n'est dans la réalité.
Voilà, je voulais répondre un petit peu aux deux dernières questions. En fait, pour ma part, je m'appelle Isabelle Resplandino, je suis franco-belge, je représente des associations d'usagers. Je pense qu'en fait, le retard qu'on accuse en France, c'est simplement qu'on n'a pas pris les décisions politiques qui s'imposaient pour des histoires de lobbying. C'est la majeure raison de ce retard, je pense. Voilà, merci.
Oui, j'avais une question un peu méthodologique par rapport à ce que vous avez dit sur l'autisme, sans être un défenseur de l'approche française. Est-ce que c'est pas un peu, on risque pas de se tromper en comparant des populations qui sont peut-être très différentes du fait de l'approche psychiatrique de l'autisme qui est très différente aux États-Unis et peut-être des populations qui sont moins graves ou plus graves. Alors, je sais pas comment.
Vous avez raison. Ce que j'ai fait est méthodologiquement pas très propre, c'est-à-dire comparer la progression d'enfants qui ont été recrutés différemment dans des pays différents, avec des critères différents, à des âges peut-être différents, à des niveaux de sévérité différents. Donc c'est vrai que normalement, on ne fait pas ça. Je l'ai fait parce que j'ai été obligé, parce qu'il n'y avait pas d'autres comparaisons méthodologiquement valides. Donc je suis d'accord qu'on pourrait remettre en cause la comparaison que j'ai faite. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec les données disponibles dans la littérature scientifique.
Juste le temps pour une dernière question.
Oui, merci pour la clarté de votre exposé. J'ai juste une question à poser. Je sors d'une autre planète. Je m'intéresse à l'autisme, entre guillemets. Pourquoi avez-vous choisi de représenter l'autisme comme cela ? C'est-à-dire 25 bulles, 41 flèches, plutôt que 250 bulles, 410 flèches. Si je pense à la théorie de l'odeur, juste en comptant un bit, ça me fait, avec votre système, 2 puissance 95 K. Je ne vois pas très bien comment vous allez pouvoir falsifier ça.
Ah, la falsification n'est pas un problème. Bon, le nombre de bulles et de flèches que j'ai représentées, ça dépendait d'une part de la place que j'avais sur la diapo, et d'autre part, des connaissances scientifiques établies. Hein, je ne peux pas représenter plus de choses que celles qu'on sait. Derrière chaque bulle et chaque flèche, il y a des données. Donc chaque bulle et chaque flèche est parfaitement falsifiable, et d'ailleurs, dans l'histoire de la recherche sur l'autisme, il y a eu beaucoup d'hypothèses de bulles et d'hypothèses de flèches qui ont déjà été falsifiées, et celles-là, je ne les ai pas représentées. Voilà, c'est un état imparfait et partiel des connaissances actuelles, et c'est appelé à évoluer. C'est tout ce que je peux en dire. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question.